Interview.
1 interview du jour.
Il me reste à vous souhaiter une bonne interview croisée. Une grande première dans ce festival. Hein.
Merci Toff. Comment on prend la parole ?
Je ne sais pas. On peut peut-être dire qu'on s'est donné un peu des règles du jeu aujourd'hui avec Cyril. On s'est dit qu'on allait vous présenter chacun notre tour des projets très récents, pas encore sortis. Cyril, un livre qui est terminé, qui va sortir dans un mois, un peu moins.
Ouais, c'est ça, dans un mois. Ouais, et toi, c'est un projet sur lequel tu travailles encore.
Voilà, et qui sortira, s'il est terminé et si tout va bien, en début 2025.
Donc comme voilà. Vous pouvez le constater, on n'est pas du tout des intervieweurs professionnels. On a eu l'occasion un peu d'échanger, ce qui fait que, bien sûr, on sait un peu où on va, mais même au-delà de la conversation et l'échange qu'on va avoir, vraiment, je pense que c'est important à tout moment, si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, plutôt que de revenir plus tard, ce qui sera de toute façon possible de faire. On va commencer par vous montrer le travail en cours de Simon, que tu as nommé « Ressouvenir de Lehman Jefferson », même si ce n'est pas le titre de cet ouvrage. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ce titre, rapidement ?
Donc, dans la présentation tout à l'heure, Christophe a parlé de Lehman Jefferson et la Grande Aventure, qui était ma première bande dessinée éditée après l'école, en 2011, chez mes éditeurs, les éditions 2024. Et donc, à l'époque, bon, c'était une BD d'aventure que j'ai fait au feutre, etc. Enfin, voilà, que comme il l'a dit, un blockbuster feutré, quoi. Et avec un espèce de récit d'anticipation un peu feuilletonesque et un peu extravagant, on va dire, avec des multiples rebondissements qui... Je réfléchissais un peu sur le récit d'aventure, un peu, voilà. Et au premier degré, un petit peu très assumé, un peu naïf. Et en fait, les années passant, avec mes éditeurs, ça a toujours été un petit peu un sujet de discussion, de blague, de se dire « Ah, on fera la suite de Lehman Jefferson ». Enfin, le livre n'avait jamais été pensé comme une ouverture sur une possible suite. Mais voilà, il y a quelques éléments qui pouvaient être développés plus tard, etc. Et en fait, avec le temps, ça s'est concrétisé un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit « Ah, en fait, le feutre me manquait aussi. J'ai fait d'autres livres, comme vous avez un peu vu, avec d'autres techniques. » Et ces derniers mois, années, après ce gros travail autour des vivants, j'avais envie de retourner au feutre, quoi. Retourner à cette technique et au récit d'aventure. En fait, ça m'intéressait aussi, cette idée de revenir au feutre et donc de revenir à ma première bande dessinée. Et donc d'essayer d'en faire une suite, quoi. Sur un peu cette idée vague de mes éditeurs, ça leur plaisait, machin et tout ça. Et en fait, en y réfléchissant, je sais pas, j'y réfléchissais pendant un an, peut-être, pendant que je terminais le livre précédent. Et je prenais des notes et tout. Je me disais, ah, ça serait marrant de faire ça, ça serait marrant qu'il y ait ce personnage et tout. Et puis, il faudrait quand même que je relise Lehman Jefferson, quoi. Je l'ai toujours pas relu et tout. Et puis, au fur et à mesure, je prenais des notes et je l'avais toujours pas relu, quoi. Et je l'ai pas relu depuis sa sortie, en fait, en 2011. Je voyais des planches de temps en temps quand elles étaient exposées, mais vraiment, c'est des planches qui traînent dans un tiroir et donc que je ne revois pas. Et je me suis dit finalement, en fait, je vais faire la suite sans avoir relu le premier, quoi. Donc, je vais faire une suite qui va se passer 250 ans plus tard. Et les événements du premier seront un souvenir flou. Et le même souvenir flou que j'ai moi-même du livre, en fait. Donc, je trouve des astuces en réutilisant des personnages quand même du premier épisode, avec des histoires de paradoxes temporels complètement farfelus qui font qu'ils se retrouvent 250 ans plus tard alors qu'ils sont inchangés. Et en fait, ils sont confrontés à justement l'oubli de leur propre histoire, l'oubli de leur passé, tout d'un coup dans un monde où les événements du premier épisode, pour eux, sont très palpables. Ils sont, en gros, dans le personnage principal, à la fin du premier épisode, il y a un petit enfant. Au début de ce nouvel épisode, il a grandi de 25 ans. Et il pense revenir chez lui après 25 ans. Et en fait, il découvre que 250 ans sont passés. Donc, c'est l'idée aussi de travailler sur le récit d'aventure, de se dire que ce personnage, lui, il est dans un récit au premier degré. Lui, c'est le personnage du premier épisode qui veut vivre une aventure. Et en fait, il revient et il n'y a plus d'aventure. Tout est terminé, l'aventure est déjà passée. Donc lui, il est toujours empêché dans son avancée de héros, de personnage, de récit d'aventure. Donc, il est toujours en train de découvrir qu'en fait, tout a disparu et que tout est oublié. Donc voilà, c'est le point de départ super joyeux.
Mais juste une première question quand même. Parce que là, tu le formules finalement comme, disons, c'est pas comme un projet dès le départ, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît petit à petit, cette manière de travailler, etc. Mais ça, vraiment, la première chose qui apparaît du coup dans ce travail-là, c'est l'évocation d'un monde perdu, d'une certaine manière. Et est-ce que tu t'es rendu compte, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ça a à voir avec quelque chose, à ton rapport, même au récit ou à ton travail, par exemple, ce monde perdu, est-ce que c'est la naïveté, le fait de partir comme ça, fleur au fusil, je vais faire un récit d'aventure, et te dire aujourd'hui, ah, je suis peut-être un peu moins naïf et frais que je l'étais à l'époque, ou est-ce que tu détaches ça de quelque chose de personnel, ou d'un état personnel ?
Non, il y a de ça, forcément. En fait, malgré moi, je suis moins naïf qu'à l'époque, quoi. Il y a un truc, en fait, mes bandes dessinées, au début, je les faisais vraiment, très premier degré, très naïvement, je prenais mes feutres, je faisais mon récit. En fait, quoi qu'on fasse, après 10 ans de bande dessinée, de travail, enfin même de temps qui passe, ouais. De vie, il y a un travail qui se met en place, une espèce de savoir-faire, des outils qu'on maîtrise, à la fois matériel et à la fois intellectuel, j'ai envie de dire, enfin dans la façon de raconter des histoires. Donc en fait, tout ça enrichit la pratique dans un sens. Et en même temps, chez moi, il y a toujours eu ce truc de je perds quelque chose. Plus ça avance, plus je perds quelque chose, quoi. Je perds une espèce de brutalité, c'est pas vraiment le mot, mais naïveté, un truc instinctif, parce que en fait, ma pratique devient trop réfléchie. Donc là, revenir au feutre, qui est une pratique instinctive par nature, parce que bon, c'est une boîte de feutre, j'en ai 40 différents, et puis je dessine directement sur les originaux, donc il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de retouche numérique, etc. Donc ça m'oblige à revenir à quelque chose de très instinctif. Et aussi, bon, dans l'écriture, mais ça, on en parlera plus tard. Donc forcément, il y a cette envie de revenir à ça. Et en même temps, de se dire, à quoi ça sert, quoi ? À quoi ça sert de faire un récit d'aventure avec des péripéties, avec des figures imposées, avec des trucs un peu comme ça, archétypaux, dont j'ai l'impression parfois d'avoir fait le tour. Enfin, en tout cas, qui se répète, quoi. Donc en fait, ça fait de ce livre, de ce projet, un truc un petit peu méta, quoi, un petit peu sur ma propre interrogation sur ce que c'est que le récit d'aventure et ce que c'est que, en fait, mon travail depuis 10 ans, quoi.
Mm-hmm. Peut-être, alors, je ne sais pas quelle image tu veux...
Peut-être avancer. Ouais. En fait, je voulais juste montrer, donc ça, c'est un extrait du premier, donc sorti en 2011, pour resituer, mais bon, vous l'avez vu, la couverture. Alors, on parlait du titre, en fait, le ressouvenir, bon... Pour l'instant, il ne s'appelle pas « Ressouvenir de Lemon Jefferson », mais disons que, en fait, le projet, j'ai découvert comme ça en lisant des choses diverses, quoi, ce terme de « ressouvenance » et de « ressouvenir », qui est un vrai mot, quoi, qui est assez ancien, mais qui désigne... c'est un souvenir d'une chose oubliée. Donc, c'est un souvenir encore plus profond que le souvenir, une espèce de fouille archéologique du souvenir, et qui correspond très bien à mon projet, sauf que le mot... est un peu moche et sonne pas très bien comme un titre de livre, quoi. Donc il faut que je trouve une autre idée, mais bref. En tout cas, c'est en fait un souvenir presque abstrait. C'est un souvenir qui nous vient presque dans l'inconscient, presque malgré nous, enfin voilà, qui a trait à plein de choses qui sont autres qu'un souvenir d'un souvenir d'enfance, d'un souvenir de vacances, etc. C'est un souvenir d'une chose enfouie, quoi. Donc pour faire ce nouvel album, là, vous avez à gauche des extraits du premier et à droite des nouvelles pages. Aujourd'hui, j'ai 35 pages qui correspondent à peu près à la moitié du livre. Et en fait, en faisant les pages, donc sans avoir relu le premier, j'essaye de jouer quand même avec les souvenirs que j'ai du premier, donc de faire des espèces d'échos, de séquences miroirs. Donc là, par exemple, à droite, vous avez l'arrivée des héros, c'est le début de l'album, et ils reviennent sur... cet endroit avec des dolmens, etc., que j'avais dessiné dans le premier. Bon, là, du coup, j'ai un peu triché en préparant ce PDF parce que j'ai revu des pages du livre, du premier livre, alors que je ne les avais pas revues. Et par exemple, j'avais complètement oublié que je les avais dessinés orange, violet, etc. Enfin, bref. Mais donc voilà, donc je fais comme ça des échos aussi dans les mises en page, dans ce que je me souviens un peu de mon découpage, du temps qui passe dans les déambulations.
Ah oui, t'as même des souvenirs de narration, c'est-à-dire de comment tu gères le temps qui passe, comment tu l'avais fait sur ton premier album, et t'essaies de retrouver le vocabulaire de ce premier album.
En fait, dans mon souvenir que j'ai de ce premier album, c'est un premier album qui avait été vraiment un terrain un peu laboratoire de plein de choses que j'ai ensuite réutilisées, expérimentées, prolongées en fait. Donc ce truc de narration silencieuse, de temps qui passe et d'ellipses très fortes entre plusieurs cases. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réutilisé ensuite et dont le début était vraiment dans Lemon Jefferson, dans ce livre-là, quoi. Pareil, il y avait une séquence dans le premier, donc la petite à gauche, qui était une séquence de flashback que j'avais fait en une espèce de bichromie au feutre. Et dans le nouveau, il y a une séquence de théâtre d'ombre qui est un peu construite sur le même principe, qui raconte des événements passés, oubliés, entre le premier et le deuxième album, en gros. et donc qui prennent la forme d'un spectacle de théâtre d'ombre, qui était quelque chose que j'avais envie de faire graphiquement, en fait, aussi, de faire une double page en silhouette, et qui permettait, en fait, de faire comme ça une petite... Mais c'est pas si conscient que ça, je me dis pas, je coche pas la case, ah, il y avait une séquence de flashback en bichromie dans le premier, il faut que j'ai ma petite double de souvenirs dans le deuxième. C'est en le faisant, je me dis, ah, mais en fait, c'est marrant, ça me... c'est... je l'avais déjà fait, en fait. Et je retrouve quand même, comme ça, cet écho, et en fait, je l'accepte, je l'intègre totalement, je le... disons que... pour cet album-là, si je me dis « Ah, mais ça, je l'ai déjà fait », en fait, j'essaye de, justement de le refaire, quoi.
Ah, t'essayes vraiment, d'accord, de manière délibérée.
Je me dis pas « Ah, bon, si je l'ai déjà fait, tant pis, je le fais pas ». En fait, là, par exemple, cette séquence-là, je me dis « Ah, ça va faire écho à ça ». Il n'y a que moi qui vais voir cet écho, parce que, bon, sans vous montrer ces pages, vous auriez pas forcément fait le... Enfin, il faut dire aussi que Lemon Jefferson, c'est pas un livre qui a été... Enfin, beaucoup lu et tout, qui est important pour moi dans mon parcours, parce que c'est le premier. Mais voilà, ces échos-là, c'est des échos très personnels, très confidentiels, très intimes, en fait, que je montre ici que pour les mettre en évidence, mais qui sont, en fait, très souterrains. Comme les séquences de feu, par exemple. Je me souviens que, en fait, dans mon souvenir, quand je faisais Lemon Jefferson, j'avais pris vachement de plaisir à dessiner le feu au feutre, dessiner les flammes, c'est la nuit, etc. Et en fait, l'idée de revenir à cette technique, c'est aussi d'essayer de dessiner différemment, de voir ce que le temps m'a appris, m'a donné comme outil. Et en fait, c'est assez drôle de voir les différences, de voir de mettre côte à côte les différences de traitement, les différences de gamme utilisées.
Alors c'est vrai que là, la projection restitue, enfin, rend vraiment pas justice au travail de Simon et à ses couleurs qui sont très très puissantes, très colorées. Avec des compositions très fortes. Mais ouais, vas-y, tu voulais passer à l'image suivante.
Je me souviens plus ce que j'ai mis. Oui, voilà, des séquences. Là, par exemple, quand j'ai fait la page de droite, en fait, c'est en préparant ce PDF que je me suis dit, dans le premier, il y avait cette séquence d'entrée dans un camp. J'avais oublié que c'était l'architecture de page était vraiment en miroir de celle que je venais de faire, quoi.
Ouais. Il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir. J'ai eu la possibilité de lire les premières pages de ce ressouvenir de Lemon Jefferson que tu m'avais envoyé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier qui saute aux yeux tout de suite quand on rentre dans le récit, c'est que l'aventure au premier degré, elle est désamorcée tout de suite. En fait, elle est mise de côté. C'est-à-dire que même tu commences, enfin, je ne sais plus comment c'est écrit, mais c'est deux amis reviennent d'un long voyage, je crois, approximativement. Et la deuxième bulle, ça doit être... après des aventures d'une longue traversée dans l'espace, enfin voilà, on comprend qu'ils ont vécu des choses incroyables pendant ces 25 ans et de ça tu dis rien, c'est-à-dire que ces aventures elles se passent dans ce vide, enfin on tourne une page et entre dans ce vide que tu ne racontes pas, il y a 25 ans d'aventure et quand ils arrivent sur cette planète qui est la leur, leur vaisseau est détruit et très rapidement, donc là veut dire que l'aventure va pas pouvoir recommencer, ils vont pas pouvoir repartir de là. Et ce qui se passe ressemble beaucoup plus à un récit intérieur. C'est-à-dire qu'ils font chemin vers le château du père. Et puis, très vite, ils sont kidnappés. Il y a des figures qui apparaissent où tous les hommes portent le visage du père. Il y a une personnage d'une femme qui s'appelle la Dame de la Nuit, qui vit dans une grotte, la Dame de Minuit, pardon. Ouais. Donc, plein de figures qui, quand on les lit, donnent l'impression, vous savez, qu'on voit le rêve de quelqu'un ou qu'on est dans le rêve de quelqu'un. Avec des figures qui résonnent très fortes, comme ça, sans qu'on sache exactement à quoi ça correspond. Et tout à l'heure, tu disais que ce balancement, enfin cet aller-retour que tu fais entre deux livres vient finalement activer des choses très souterraines en toi. Et cette ambiance de rêve qu'on sent dans le tome 2, je trouve, donne beaucoup à penser ça, mais ça reste très caché. C'est-à-dire que finalement, toutes ces évocations souterraines en toi, tout ce que tu mets de toi reste malgré tout très caché. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous en dire un petit peu plus là, de tout ça finalement? Est-ce que c'est quelque chose d'intime dans le travail? Est-ce que c'est quelque chose d'intime dans ta vie? Est-ce que c'est les deux, par exemple?
C'est les deux complètement. En fait, disons que ça ramène à ce truc de naïveté dont je parlais au début. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai fait le premier, j'ai mis plein de choses intimes dans le premier. Sauf que je les mettais vraiment sans savoir, quoi.
Enfin, j'étais vraiment, tout à fait inconsciemment.
Presque complètement inconsciemment. C'est-à-dire que, bon, j'avais 25 ans, quoi. Je sortais de l'école, c'est un premier livre, on met un peu ce qu'on a, ça sort comme ça sort. En plus, c'est des récits qui sont, bon, pour dire deux mots de l'écriture, mais j'écris pas un scénario complet, J'ai une trame qui tient sur 2 à 4, on va dire, enfin d'une histoire un peu globale avec les grandes étapes. Et là-dedans, c'est un chemin que je me permets de changer, de faire des petites haltes quelque part, de changer des choses, de rajouter. En fait, chaque jour, je décide de ce que je vais faire de la séquence qui arrive, quoi, des pages qui arrivent. Donc c'est presque de l'improvisation dans un canevas qui est quand même assez contraint, quoi. C'est voilà, qui est quand même prémédité, quoi.
Bah, c'est comme de l'improvisation de jazz, finalement. C'est-à-dire que tu as une grille,
ouais, un petit peu, oui,
une structure,
oui.
Et à l'intérieur de ça, tu t'accordes beaucoup de liberté.
Voilà, c'est ça. Après, c'est des libertés qui sont, je pense, finalement, pas si énormes que ça. Disons que je me donne un cadre, et finalement, ce cadre, j'ai parfois l'impression qu'il est très libre, et rétrospectivement, à chaque fois, je me dis non. En fait, tu fais quand même tes petites cases, tes petites bulles, tes petites pages, une par une et tout. J'aime quand même bien ça, quoi. C'est quand même bien cadré.
Mais ce serait quoi, une autre liberté ?
J'en sais rien. Mais par exemple, Lemon Jefferson, quand le premier est sorti, j'avais presque pas conscience de faire un truc... Enfin, que les couleurs étaient un petit peu originales, quoi.
Ah, c'est vrai ?
J'avais envie de faire quelque chose de flashy, de pop, qui était en référence aussi à des récits très archétypaux des années 30-40, que ce soit à la fois dans le cinéma et à la fois dans la vieille bande dessinée américaine, par exemple, de pulp, de feuilleton, etc. Donc, pour moi, le feutre faisait référence à ça aussi, à cette naïveté, à ces tons purs, etc. Mais ça restait de la colorisation de bande dessinée, quoi.
Ah oui, mais alors ça, c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est quand même, c'est difficile peut-être à expliquer, mais disons que, il y a la puissance des couleurs de ces livres-là en particulier, moi, elle m'impressionne beaucoup, mais elle m'impressionne d'autant plus qu'elles réussissent à proposer des compositions chromatiques extrêmement surprenantes, extrêmement fortes, tout en préservant la narration, c'est-à-dire qu'on ne perd pas le récit. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en bande dessinée, il y a une obligation de compréhension. Voilà. Il faut qu'on remarque que c'est ce personnage-là qui est en train de parler, que c'est lui qui se déplace, etc. Il y a plein d'enjeux de narration que le lecteur ne perçoit pas forcément, mais qui peuvent être complètement détruits, par exemple, par une mise en couleur. Enfin, on peut faire une composition chromatique très forte, mais qui fait qu'on ne comprend plus rien, en fait. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, que, comme tu l'expliques, ce travail de couleur est improvisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esquisse préalable sur ces compositions chromatiques. C'est vraiment, pour le coup, je trouve, un rapport presque d'ordre de l'enfance à la couleur. C'est-à-dire qu'on prend des feutres et on dessine, quoi.
Ouais, mais ça, c'est ce qui me permet de rater aussi, quoi. Il y a plein de pages, je me dis, oh là là, mince, pourquoi j'ai mis ce vert-là, quoi. Mais tant pis, en fait.
Et voilà, il faut trouver une solution, voilà. Après.
Bon, cette lisibilité... Objectivement, je pense qu'elle n'est pas toujours... Enfin, le feutre l'écrase parfois, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Après, ce qui rend quand même la bande dessinée assez classique, en tout cas pour moi, et assez lisible, c'est aussi mon dessin qui est en fait, surtout pour ces projets-là, que je veux aussi très simple, très classique, très ligneux clair, hérité d'une bande dessinée très classique, avec aussi ce principe de gaufrier, de parfois de voix off, de rebondissement à chaque fin de page et tout. Il y a un truc où, dans ma tête aussi, et dans ma culture de bande dessinée, c'est quand même très inscrit, ce truc, le personnage se déplace à droite, etc. Enfin, des espèces de règles un petit peu
formelles
de bande dessinée classique, quoi. Ça, c'est très ancré dans ma tête, parce que c'est ce que je lisais beaucoup enfant, quoi.
C'était quoi tes lectures enfant ?
S'il faut résumer, c'est Tintin, quoi. C'est Hergé, en fait, c'est ça.
Ouais.
Après, plus tard, ça change, ça bouge beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça bouge encore plus. C'est aussi qu'entre le premier et le deuxième, finalement, je pense que quand j'étais étudiant, j'avais encore une approche très, très classique de la bande dessinée, en fait. Je faisais du feu, c'est pour ça que je parle de naïveté, c'est que je faisais du feu sans presque me rendre compte que j'étais en train de faire quelque chose de personnel, quoi.
Mais alors, est-ce que Simon Roussin, enfant, par exemple, recopiait des planches de Tintin au feutre ?
Complètement. Non, alors pas au feutre. Non, je ne faisais pas beaucoup de feutre enfant, bizarrement. Ouais. Mais je faisais des bandes dessinées à partir de toutes les bandes dessinées que je lisais, qui étaient à ma portée, quoi, à la maison, à la bibliothèque. Je créais des histoires, mais chaque case était une copie d'une bande dessinée.
D'accord.
Je changeais juste le personnage principal, mais j'ai retrouvé des pages et j'arrive à les recomposer avec toutes les sources diverses.
Mais c'est marrant parce que la référence à Tintin, moi je peux la comprendre par rapport à, disons, l'aventure, une certaine manière de traiter le trait, mais disons que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas libre, c'est bien Tintin. Enfin, je veux dire, dans l'expression plastique, s'il y a bien une bande dessinée qui est sous contrôle permanent, où chaque trait est posé en conscience, décidé, etc., c'est bien Tintin. Et t'es presque à l'opposé de ça, d'une certaine manière.
Ouais, et en même temps, moi, ce qui m'intéresse vachement dans Tintin, c'est justement les souterrains de Tintin, quoi. Mmh. C'est l'idée que, qu'en fait, on lit des choses... Enfin, il y a des choses qui échappent complètement à Hergé dans Tintin, notamment les séquences de rêve, les personnages doubles, etc., qui sont en fait des choses qui lui ont échappé justement parce qu'il était dans ce cadre qu'il pensait très sécurisant, très... voilà.
Ah bah typiquement, c'est vrai que moi, Tintin, par exemple, ça m'angoisse. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je le formule par rapport à ce contrôle permanent, mais chaque fois que je lis un truc de Tintin, il y a quelque chose d'oppressant, quoi.
Ah ouais, ouais. Ouais, et moi, je vois, en fait... bon, oui, j'en lis encore, mais... Mais ce que j'aime bien, oui, ce que j'aime bien dans Tintin, c'est à la fois la maîtrise et à la fois tout ce qu'on sait aujourd'hui de la vie d'Hergé, tout ce qui transparaît dans son œuvre et tout.
Ouais, la dépression.
Et sous cet aspect hyper, hyper simple, quoi. Ouais. Donc, au final, mais bref, on s'est un peu écarté, je ne sais plus ce qu'on disait.
Non, on y est.
Mais donc, il y a cette idée d'avoir un récit clair, un dessin clair, avec une mise en couleur très brute, qui me permet de laisser échapper des choses souterraines, intimes, voilà ce qu'on disait sur le premier. Et sur le deuxième, en fait, elles sont beaucoup plus conscientes. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'il a été assez dur à commencer, parce que je me disais, mince, je suis trop impudique, quoi. Ouvertement impudique, je sais trop ce que je veux mettre dedans.
Mais
alors c'est... À l'avance.
Ouais, mais alors c'est ça qui est très surprenant, parce que à la lecture, ça reste extrêmement mystérieux. En fait, ça donne le sentiment de quelque chose de vibrant, mais dont on ne perçoit, dont ce qui te concerne toi intimement n'est jamais accessible, jamais. Enfin, il me semble. Mmh. Et donc, évidemment, je vais pas te demander ce qui est impudique, puisque par principe tu ne l'as pas montré. Mais alors, je vais essayer de tourner la question autrement. Est-ce que, par exemple, bon, disons que ce livre, il me semble, parle beaucoup d'un monde perdu, d'un monde qu'on essaye de retrouver et qui n'est plus là, en fait. Voilà. Est-ce que toi, par exemple, tu as une mélancolie, par exemple, de cette époque-là, en parlant uniquement du travail, quoi.
En fait,
l'état dans lequel tu étais à ce moment-là.
En fait, pas vraiment, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Ah. C'est vraiment. En fait, je relis pas mes livres.
Ah, mais tu pourrais être triste de cet autre que tu n'es plus.
Bah, alors bon, il y a un peu le vertige de se dire, ah putain, déjà 13 ans, déjà 15 ans, j'ai fait ce livre il y a 15 ans, quoi. C'est un peu vertigineux, mais en fait, le vertige, il vient aussi de se rendre compte qu'on devient autre, qu'on change. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce projet, c'est de me dire, naïvement, je recrée toutes les conditions pour refaire mon premier livre. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai dessiné de plus en plus grand, j'ai changé d'outil, mes originaux ne sont plus de la même taille, etc. Et là, j'ai tout recréé. J'ai repris exactement la taille de mes premiers originaux. J'ai essayé de reprendre les outils. Alors, je dessine au rotring. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de dessiner au rotring. Donc, j'ai trouvé un peu un subterfuge. J'ai une plume qui est à peu près de cette taille-là. Mais mon dessin est devenu trop nerveux, presque rapide pour le rotring, qui arrache la feuille, quoi. Enfin, qui est vraiment... Mais j'ai quand même recréé ce truc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me dire, de savoir très consciemment, je suis pas débile, c'est impossible de refaire ce livre, quoi. Enfin, c'est impossible de me remettre dans ces conditions, de retrouver mes 25 ans et de me dire, ah, je fais...
Oui, clairement, ta jeunesse est partie, quoi. C'est ça que tu es en train de dire, en
voilà,
fait.
Voilà, ouais, c'est ça. Je suis pas complètement inconscient et complètement... Voilà, mais du coup, ce qui m'amuse, c'est de travailler sur ce décalage-là, de voir ce que ça fait à mon travail, ce décalage, ce qu'il apporte au livre, quoi. C'est ça qui échappe. Parce que j'ai beau me mettre toutes les règles possibles, retrouver mon petit format, mes petits outils, mes petits feutres et tout, mes petits personnages, en fait, il y a un truc qui va m'échapper. Et donc, même si je suis très conscient de ce que je mets, même si je lis beaucoup plus de docs, de références, de choses et tout pour faire ce livre, au moment de m'y mettre, je sais qu'il y a plein de choses qui m'échappent, quoi. Mm-hmm. Je sais que le but, ce qui est dur avec le temps, c'est qu'on sait que les choses nous échappent quand on fait des livres. Enfin bon, ce qui est dur, c'est d'accepter que ça échappe, de quand même le mettre, quoi. Je sais pas comment dire, mais de...
Ah, tu le regrettes de... Parce que tu dis en même temps que tu cherches du lâcher prise et tu as l'air de regretter d'une certaine manière
que
quelque chose t'échappe.
Parce que je trouve que ce lâcher prise, il est, avec le temps, je trouve qu'il est dur à... En fait, il est trop maîtrisé, quoi. Il est trop conscient. On est dans un lâcher-prise, mais pas vraiment, parce qu'on a des automatismes, on a un dessin qui revient, on a des positions, des personnages, une manière de dessiner, de construire des pages et tout, qui sont là, qui sont presque... On pourrait presque faire... Enfin, des fois, c'est comme en voiture sur l'autoroute, des fois, je me retrouve à faire une planche, et puis Ah, j'en suis là, en fait. Tu sais, t'as l'impression d'être en auto-hypnose et d'avoir une absence,
à toi-même pendant tout ce temps-là. Quoi,
Je trouve que dans notre métier, il y a un truc un peu comme ça, où ça devient trop facile de faire des livres, quoi.
On sait faire.
Ouais. Donc, c'est dur de se surprendre, de retrouver une espèce de...
Mais alors, c'est là où je me dis que... vraiment, tu t'es lancé un défi vachement ambitieux parce que tu cherches du lâcher-prise... En revenant à tes fondations, enfin, tu vois, à quelque chose que tu as déjà traversé et que tu veux revisiter, alors que tu aurais pu prendre le parti, je ne sais pas, d'aller totalement ailleurs, de te dire, par exemple, je vais quitter toutes mes références, tout mon univers, pour être plus facilement dans le lâcher-prise, alors que là, tu te fais un piège, tu t'obliges à créer du lâcher-prise dans un univers que tu t'es forgé.
Mais parce que j'avais l'impression que... D'y revenir, c'était le moyen de... Pour moi, je ne sais pas, c'était le cadre dans lequel j'allais le plus pouvoir justement être différent. Quoi. Montrer le changement, montrer ce que le temps a fait à mon dessin, à ma manière de raconter, à mes personnages, à ma manière d'appréhender les livres, etc. C'était en reprenant ce cadre, en essayant de... En étant très conscient de cette impossibilité, quoi, d'être vraiment revenir vers le passé, tout en créant un truc complètement impossible. Quoi.
Ouais, c'est un peu mazo en fait.
Hein. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Donc bon, je passe vite parce qu'on se. Alors je vous ai. Ouais, on va switcher. Je passe vite sur les références. Enfin voilà, j'avais fait une page de trucs pour montrer un peu les.
Du coup, j'avais quand même juste une dernière question. Justement, quand tu nous montres ça, juste une dernière question. Il me semble que, évidemment, moi, je ne connais pas tout ton travail, mais quand même pas mal. Et justement, je trouve qu'une de tes particularités, c'est au-delà des différentes directions esthétiques dans lesquelles tu vas, c'est un travail qui est souvent très référencé. Tu puises à différentes sources, mais qui sont souvent très présentes. Il y a l'aventure au sens large, il y a le cinéma, puis il y a des motifs, il y a des figures. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'expliques à toi-même ou pour le coup, tu n'as pas envie de t'interroger parce que de toute façon, tu te sens bien là-dedans et donc voilà, tu y vas sans l'interroger particulièrement?
Quand je l'interroge, je sais d'où ça vient, quoi. Je sais qu'enfant, je collectais plein de coupures de cinéma, de trucs et tout, que je classais dans différentes thématiques et tout. Donc je sais d'où ça vient et je sais pourquoi je continue à faire ça. Quand je commence un livre, j'ai besoin de références thématiques presque. Je prends des captures écran de films, là comme vous voyez et tout. Enfin bon, vous voyez pas trop, mais un petit peu, quoi. Et en fait, avec une idée très précise.
Il y en a aussi sur ces images-là, oui.
Où je me dis, je ne cherche pas des films, par exemple, je ne cherche pas des films d'aventure pour copier une histoire, pour trouver des références de rebondissement et tout. Non, je cherche des formes de rochers, je cherche des costumes, je cherche des manières de faire. Par exemple, en ce moment, là, je regarde un peu des films muets en me disant, bon, comment ils cadrent, comment ils trouvent des décors, des choses. Essayer de trouver des références aussi différentes de ce que j'ai déjà fait. En fait, ce qui m'intéresse vachement dans les références à trouver avant de faire un livre, c'est d'aller chercher dans les séries B, dans les séries Z, dans des choses très rudimentaires, en fait. Des gens qui ont fait des films avec peu de moyens et qui ont fait des films d'aventure, des films historiques, des films avec des histoires amples, mais avec trois bouts de carton, des cailloux en polystyrène et tout. Enfin, bon, je sais pas quoi, mais, mais avec où on sent le faux.
Ouais.
Et c'est pas grave.
Et pourtant, on réussit à faire une histoire, avec une modestie de moyens.
Parce que, moi, mon dessin, il est modeste, quoi. Les feutres, c'est modeste, c'est rudimentaire. Mon dessin, il est limité, quoi qu'il arrive, quoi. J'ai pas un dessin virtuose où je peux tout faire, etc. Tout imaginer. Donc, je m'en sers comme des outils, comme une boîte d'outils. Et j'ai que ça, quoi. Et donc, il faut que je fasse des choses avec. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'avec le temps aussi, il y a un savoir-faire qui arrive. Je sais que dessiner des chevaux, j'y arrive mieux qu'avant parce que si je recopie des photos, des trucs et tout. Et donc après, voilà, j'essaye d'aller vers des choses différentes, de la peinture, des choses m'étaient moins familières il y a 10-15 ans.
Oui.
Et en fait, qui changent aussi ma manière de faire les images, quoi. J'ai des références de vieux livres, de cartes postales. Il y a un personnage dans le livre qui parle qu'avec les mains. Ça m'amusait d'avoir un personnage muet dans une bande dessinée.
Qui s'appelle Silence.
Donc il...
Non mais je trouve ça très symptomatique en plus. Enfin, tu vois, c'est le silence qui parle et en plus quasiment personne ne comprend ce qu'il dit parce que c'est très 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 énigmatique. Donc, ça résonne assez bien avec ce que tu... La manière dont tu abordes cette histoire d'une certaine manière.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Voilà, on passe à toi.
Ok, d'accord. Peut-être j'explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc ce projet qui s'appelle Journal d'une bataille, En fait, ça part d'un projet de dessin avant tout, et pas du tout d'un projet de livre. Il y a 2 ans de ça, à peu près, je vais parler un petit peu de moi. Pour le coup, je venais de traverser une période très compliquée, un peu longue comme ça, et avec une espèce d'immense lassitude, et le mot est faible par rapport à mon dessin, à mon travail, la bande dessinée. Bon, grosso modo, tout me fait chier, j'en ai ras-le-bol de tout, rien ne va. Voilà. Et à ce moment-là, quelqu'un qui s'appelle Karine Romain et qui tient un lieu d'art contemporain dans la banlieue parisienne me propose un projet de dessin. Parce qu'on parlait de bande dessinée, on parlait de la tapisserie de Bayeux, de double récit, enfin bref. Mais en fait, c'était surtout un prétexte pour essayer de me remettre au dessin. Et elle me dit, voilà, ce que je te propose, c'est de faire un journal, une espèce de journal intime, mais qui sera avant tout plastique. Et tous les mois, tu vas dessiner 5 dessins de grand format qui vont faire 1,50 m par 1 m. Tu fais absolument ce que tu veux, tu dessines absolument ce que tu veux, mais tu as une obligation de faire ces 5 dessins tous les mois. Et tu as une interdiction d'enlever un de ces dessins. C'est-à-dire que quel que soit le résultat final de ce dessin, il faudra le laisser. Et à la fin, on va mettre tous ces dessins bout à bout. Donc je dessinais sur des rouleaux de papier que j'avais installé dans ma chambre. Je faisais défiler le rouleau, je faisais un dessin. Ensuite, hop, je l'enlevais. Le dessin, je ne le voyais plus. Je faisais un nouveau dessin. Et l'idée, c'est à la fin de mettre bout à bout toutes ces images qui vont faire à peu près... On est un tout petit peu plus court que la tapisserie de Bayeux. Ça va faire 130 mètres de dessin. Et j'ai commencé à faire ce travail. Alors, tout s'est pas passé dans le journal d'une bataille. Il y avait aussi d'autres choses qui, petit à petit, aussi sont revenues. Mais dans ce travail de dessin, eh ben, ça a été l'occasion, justement, de partir à la recherche de mon dessin, un peu comme tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de se débarrasser de tout ce que je savais faire. Et un bon moyen de le faire pour ça, ça a été de passer au grand format. Et donc être obligé de travailler beaucoup plus avec le corps et avec d'autres outils que ceux de la bande dessinée qui ont été mes outils pendant 25 ans. Hein.
T'avais une pratique déjà du dessin hors de la bande dessinée ?
Très très peu. Très très peu. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Karine me propose ça, quand on me demandait ce que j'étais, je disais je suis un dessinateur de bande dessinée. Et pas un dessinateur. J'avais l'impression que le dessin qui était autre chose. C'est-à-dire un dessin qui ne répond qu'à lui-même, qui n'essaye pas de raconter, c'est quelque chose que j'avais jamais essayé d'aborder vraiment et qui me paraissait complètement inaccessible. Enfin, ce qui fait que ce travail était la découverte de ça. C'est-à-dire que, en fait, bon, je savais, je passais mon temps d'ailleurs à dire à tout le monde, mais le dessin, tout le monde peut le faire, c'est à tout le monde, etc. etc., etc. Mais en fait, je ne prenais pas le risque d'essayer de m'aventurer là. Et là, ça a été vraiment une aventure personnelle très très forte, en fait, de me rendre compte que dès lors qu'on se dit que l'enjeu, que la question qui est posée là, c'est de se dire d'abord je vais faire un premier trait et ensuite je vais essayer de faire qu'un deuxième trait qui va répondre à ce premier trait et avancer comme ça et voir où je vais, enfin où est-ce que ça m'amène. Et ce qui était passionnant, c'est que ça m'a amené à des tas de dessins que je ne connaissais pas pour le coup. Et puis, en marge de ce travail de dessin, tous les mois, donc, dans lequel, suivant mon état du moment, déprimé, en colère, etc., enfin, voilà, il y a plein de choses qui apparaissaient. J'ai commencé à écrire. Et très vite, je sentais que ces textes étaient vraiment en lien. C'est-à-dire que les textes ne commentaient, alors parfois, mais très rarement, le dessin, mais avaient à voir avec l'état dans lequel j'avais fait ce dessin. Et réciproquement, enfin, il y avait une espèce de petit à petit, quelque chose, une discussion qui se passait entre ces dessins et ces textes. Donc très vite, j'ai proposé à Karine d'en faire un livre. Ce qui fait que Journal d'une bataille va être à la fois une exposition et un livre. Tout ça aura lieu au mois d'avril. Donc ce travail, il est terminé maintenant.
Et pour parler de la place du texte, c'est vrai que pour l'avoir lu, en fait, c'est de l'ordre un peu du journal, journal quotidien, journal intime et tout. Mais il y a plusieurs choses dedans, quoi. Tu parles à la fois, il est parfois très abstrait, parfois très personnel, un peu impudique, comme on disait tout à l'heure, ouais, enfin, on parlait de pudeur et tout, mais très frontal et tout. Et parfois, tu parles de ton rapport au dessin, d'une espèce de colère à l'encontre du monde tel qu'il va, quoi, on va dire.
Ouais, ouais.
Est-ce que ça, c'est... Tu avais une pratique déjà quotidienne de l'écriture, enfin de
oui, en fait, qui était oui, pas... oui. Enfin, bon, d'abord, comme toi, j'écris mes scénarios en général tout seul, pas toujours. L'âge d'or, c'est coécrit, mais la plupart du temps, j'écris tout seul. Mais j'ai aussi un journal, par exemple, où j'écris vraiment. Enfin, pendant une période, j'écrivais vraiment quotidiennement, même parfois plusieurs fois par jour, parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de déverser plein de trucs. Maintenant, ça reste une. Le journal est devenu. Mon journal est devenu plus un outil de travail. C'est-à-dire que c'est de moins en moins quelque chose d'intime, et c'est de plus en plus un endroit où j'essaye de poser par écrit toutes mes réflexions sur mon travail. Enfin, j'essaye de me parler à moi-même pour m'aider à réfléchir et avancer, etc.
Et c'est quelque chose que tu penses en complètement hors de la publication de l'édition.
Complètement. Parce complètement. Que, ouais. C'est-à-dire que là, dans ce journal-là, mon journal personnel, j'espère bien qu'il ne sera jamais publié. Vraiment. Et ce qui fait que donc, je suis très très libre à l'intérieur de ça, vraiment. Alors dans le journal d'une bataille, je suis libre aussi, bien sûr, c'est moi qui décide, mais je suis très conscient que tout ce que j'écris va être lu. D'abord, et donc ça a un impact direct, c'est-à-dire je sais que je m'adresse à des gens. Et donc je fais des choix sur ce que je dis, sur ce que je ne dis pas, et c'est un travail d'écriture, beaucoup plus que mon journal intime où je ne cherche pas à faire de la littérature, je m'en fous. Là, dans Journal d'une bataille, j'ai essayé de faire un véritable travail d'écriture sur le texte, sur le rythme, sur le choix de ce que j'évoque. Et effectivement, il y a quand même deux thématiques, disons, une qui est moi qui suis cinglé et le monde cinglé, comment ça se passe, quoi. Cette articulation entre les deux, et puis cette expérience du dessin, cette expérience de partir à chaque dessin, à essayer que chaque dessin soit une nouvelle aventure et ne soit pas la répétition de quelque chose de familier. C'est pour ça que là, j'ai mis quelques images qui permettent de voir en fait que ça part dans des directions très différentes qui sont liées aussi aux outils que j'ai utilisés, du fusain.
Ça, c'était les outils, tu les as choisis parce que c'était aussi quelque chose de nouveau. Tu n'avais jamais travaillé au fusain, au pastel
peu, mais très peu. Et surtout parce que, en fait, c'est des outils que j'ai choisis en lien avec le format. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut. Je ne sais pas si j'ai des exemples là. C'est plutôt du pastel, etc. Ça, par exemple, je crois que c'est du feutre. Alors, évidemment, quand on part au feutre sur un dessin qui fait 1,50 m par 1 m, bon, bah, ça crée des formes particulières. Ça crée ça, par exemple. Mais c'était pas tellement. Enfin, j'ai pas choisi les outils en me disant ah j'ai jamais utilisé cet outil, allons-y. C'était plutôt bon bah voilà comme il faut faire, il faut sculptiner cette surface. Qu'est-ce qui va me permettre de le faire? Le truc qui me fout encore vachement la trouille, c'est effectivement il y a quelques dessins qui ont. Enfin, ça reste toujours du dessin. Parfois il y a de l'acrylique, mais ça c'est une utilisation de la peinture quand même par le dessin plutôt.
Et on parlait de cadre tout à l'heure et tout. Là, tu disais, bon, tu avais 5 dessins à faire par mois. Est-ce que ça, c'est un cadre qui t'obligeait, enfin, qui te contraignait, quoi? Tu te disais, bon, il faut que je m'y mette, quoi.
Ouais, parfois. Voilà.
Et aussi, à quel moment tu passes à un autre dessin?
Ah, alors ça, alors, je vais commencer par celle-ci. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un truc très bizarre. Je ne sais pas si c'est une expérience partagée par des autres dessinateurs ou dessinatrices. Mais il y a donc comme c'est ce que j'ai décidé pour ce travail-là, c'est vraiment qu'il sera en improvisation permanente. C'est-à-dire que je ne prévois rien à l'avance. Je suis devant ma feuille blanche, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a rien. Je prends un crayon et on va faire un dessin. Voilà. Alors parfois j'utilise des subterfuges, hein, pour pas être trop dans le vide. C'est-à-dire des trucs simples. Je mets de la musique, je fume de la drogue. Enfin ouais, des trucs comme ça, quoi. Pour être un peu porté. Parfois rien. J'y vais comme ça. Et ce qui se passe très souvent, c'est que il y a tout un temps où tout ce qui se passe sur cette feuille, c'est rien en fait. C'est-à-dire c'est des traits, il n'y a rien qui interagit, il n'y a rien qui se passe. Et puis, et ça c'est difficile à expliquer, il y a un moment donné où il y a une tension qui apparaît entre deux traits, entre deux couleurs, entre deux formes. C'est comme si on cherchait un chemin et là tout à coup, hop, on a trouvé une première prise de couleurs qui, ah ça vibre, il y a un truc qui se passe entre les deux. Et alors c'est depuis là. Depuis là, on essaie de trouver un autre point d'appui. Vous savez comment on va rap, quoi. On a un truc, alors ah, la prise, elle est là, par où je peux... Et hop, on tente un truc. Et ça monte comme ça, petit à petit. Alors parfois, ça peut prendre 2 heures, en fait, pour trouver juste ça. C'est-à-dire que pendant 2 heures, je fais des choses et il n'y a rien. Et puis tout à coup, il y a quelque chose. Et parfois, c'est en 5 minutes. Ça, on ne peut pas le décider. Et en fait, une fois que finalement, il y a cette tension apparaît et se fabrique, et ben là, souvent, le dessin, il vient. Et le dessin se termine quand finalement il est clos en fait. On peut plus rien faire. Soit parce que la technique, par exemple, on peut pas recouvrir. Enfin, par exemple, ce dessin-ci, oui, dans l'absolu, j'aurais pu en fait continuer à chercher. Mais là, pour continuer à chercher, comme c'est de l'encre, et l'acrylique. Enfin, il fallait que je me lance finalement comme de faire une toile. Et donc là, ça peut être des 3 mois de travail. C'est-à-dire que voilà. Donc là, je me suis dit bon, bah, là, j'ai quelque chose qui est résolu. Je m'arrête là. Et c'est suffisamment résolu pour que je puisse passer à la suivante. Et je me rappelle plus de la première question.
C'était sur le cadre.
Est-ce que c'est contraignant ? Est-ce que c'est... en fait, au départ, c'était un peu une contrainte parce que y a un inconfort à se mettre dans une situation inconfortable parce que j'avais pas aucun point de repère familier. Mais très vite, c'était pas du tout une contrainte. Très vite, c'est vraiment devenu un espace dont j'avais besoin en fait. Et à tel point que au fil du temps. Je sentais il y a des moments où ça n'allait pas, il était temps que je revienne dessiner et ça aussi ça a été vraiment, je savais depuis très longtemps que le dessin était un espace sécure, un espace dans lequel je me sens bien, et c'était même toute la difficulté de mon moment avant de commencer ce travail, c'est que j'avais perdu mon abri quoi, le dessin était plus un espace, il n'y avait plus d'espace sécure nulle part, et là à travers ce travail là c'était enfin, retrouver des moments et un espace où la pensée peut disparaître, où on peut être juste à l'écoute, non pas de soi, mais de ce qui est en train de se faire. Et c'est un peu presque méditatif, hein, c'est-à-dire vraiment, il y a quelque chose parfois même de l'ordre de la transe, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de soi-même dans le dessin. Je pense que beaucoup de gens qui dessinent l'éprouvent, ça, une disparition de soi, qui est moi, à ce moment-là, disparaître à moi-même, c'était le meilleur truc qui puisse m'arriver, quoi. Ça me faisait vraiment du bien. Ce qui fait que du coup, c'était plus du tout une contrainte. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant que ce travail est terminé et donc que ce cadre n'existe plus, je me retrouve dans un moment un peu flottant. C'est-à-dire que ça a initié autour plein d'autres dessins et c'était très chouette, très vivant, etc. Et je continue. Et puis, il y a d'autres projets à venir qui vont être un prolongement de ça. Mais comme ce cadre n'est plus là, là, je me sens un peu...
C'est ce que j'allais te demander, la place de ta pratique, de ta pratique, quoi, de la bande dessinée, du livre et tout, pendant ce projet, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il vient un moment de rupture où tu n'as plus envie de faire de bande dessinée, tu n'as plus envie de t'y... Et pourtant, je crois qu'aujourd'hui, tu as de nouveau des projets de bande dessinée. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est ce projet-là, c'est ce travail de dessin qui t'a permis de revenir à la bande dessinée ? Peut-être d'une manière différente.
Oui, ouais, clairement. Alors d'abord, je suis revenu à la bande dessinée avec un projet que j'avais déjà initié avant, mais que j'avais mis de côté, et d'ailleurs que je pensais même effectivement complètement laisser tomber. Et donc je reviens à la bande dessinée, mais quand même, ça, je trouve que ça reste quelque chose d'un peu compliqué. Parce que, évidemment, que dans ce dessin-là, comme il n'y a pas d'enjeu de narration, de récit, enfin, c'est pas évidemment, en tout cas, je m'y sens beaucoup plus libre, en fait, beaucoup plus. Et je suis content de revenir à ce récit, je suis content de cette bande dessinée, c'est un projet qui me plaît, avec un autre auteur très différent de moi, ce qui permet beaucoup d'échanges, qui permet de m'éloigner de moi aussi, ça c'est vachement bien. Mais. C'est vrai que je trouve que la bande dessinée est quand même un moyen d'expression qui contient beaucoup de contraintes. Et alors évidemment, comme tout moyen d'expression, ceci dit, voilà, la chanson, c'est un format, c'est difficile d'y échapper, etc., etc. Mais je suis content et en même temps, il y a une bataille. Il y a un truc que j'arrive pas encore à résoudre. Pour ce projet en bande dessinée, j'ai fait une trentaine de pages qui sont de prologue. Que j'ai dessiné de manière très 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 classique, très truc d'aventure là pour le coup. Et l'histoire de cette bande dessinée, c'est un marin portugais au XVIe siècle qui navigue, ils sont attaqués par des pirates, ils tombent à la mer et il échoue sur un archipel d'îles qui se révèle être le Japon. Et donc c'est la première rencontre entre occidentaux et japonais. Et donc moi je raconte cette histoire vue de ce marin portugais et Taiyo Matsumoto lui va raconter la même histoire mais vue des japonais qui voient se débarquer ce type.
Dans le même livre
dans le même livre, mais en séparant les récits. C'est-à-dire qu'on va faire deux récits tête bêche. Mon récit qui va se lire de gauche à droite dans le livre, et puis ensuite, il sera possible de retourner le livre, et il y aura le récit de Matsumoto qui se lira de droite à gauche. Un livre double face, comme ça, et dans lequel le lecteur pourra rentrer comme il le souhaite. Et là, j'en suis au point où mon personnage se réveille sur cette plage, et je suis pas très bien, je sais pas comment faire en fait, parce que je sais que j'ai une histoire à raconter, j'ai très envie de la raconter, et en même temps je voudrais retrouver cette liberté éprouvée dans le dessin, et c'est pas facile. Je suis content de le faire, mais je vois bien que j'ai pas du tout les rails en fait là pour le coup de ce livre, vraiment. Okay. Pas.
Et ça, j'ai l'impression que ces moments de rupture et tout, tu les as eu plusieurs fois, même au sein de la bande dessinée, quoi. Tu as commencé par du récit d'aventure, j'ai l'impression de bifurquer à un certain moment, avec peut-être au moment de Trois Ombres, au moment de Portugal et tout, vers un truc semi-autobio ou autofiction, je ne sais pas comment tu l'appelles. Et là, encore un point de rupture qui est encore plus radical, parce que qui t'extrait complètement de la bande dessinée.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que tu as toujours cette balance-là, toi, entre le récit d'aventure romanesque et tout, et puis en fait la tentation comme si ton intimité, ton intime était trop fort, quoi.
Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est tout à fait vrai. En fait, hormis les tout premiers livres où je travaillais avec un scénariste qui s'appelle David Chauvel, et là où vraiment le récit ne m'appartenait pas du tout, et où j'étais au service de son récit. Et c'était vachement bien, parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris le langage de la bande dessinée, etc., etc. Mais quand j'ai commencé à... J'avais envie d'écrire, mais j'écrivais pas du tout. Et quand j'ai commencé à faire mes tout premiers livres, c'est-à-dire Les Cœurs solitaires, Trois ombres, etc., je m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là, mais en fait... tous les livres que j'ai écrits depuis, en fait, contiennent énormément de moi. Enfin, soit ils contiennent des éléments autobiographiques, soit ils naissent pour des raisons très personnelles, et qui sont souvent des crises. j'enchaîne les crises. Et les livres sont des Trois ombres, je suis en crise, je me dis que je vais arrêter la bande dessinée à tout jamais, c'est le dernier livre que je fais, et après c'est mort, quoi. Et en fait, ce livre trouve tout à coup plein d'échos, ça marche, et ça me redonne de l'énergie, du courage. Après, c'est des crises et des rencontres, les livres, beaucoup, à chaque fois. Il y a Lewis Trondheim qui a été important comme rencontre, José Louis Boquet ensuite comme éditeur, mais c'est des gens qui m'ont aussi aidé à faire en sorte que tout ce que j'avais besoin d'exprimer, pour le coup c'est vrai, il y a vraiment un besoin d'expression intérieure, enfin d'expression de choses qui me traversent intérieurement dans les livres, ce qui n'est pas non plus super original, hein, c'est pas... mais c'est très présent, ce qui fait que du coup effectivement quand je traverse des moments un peu d'effondrement, du coup les livres patatras, quoi, ça, tout se casse la figure, quoi. Je crois que j'ai tout dit. Non, mais peut-être que c'est le bon moment, justement, si vous avez des questions sur toutes ces choses passionnantes là qu'on a évoquées. Voilà, prenez la main. Allez-y, c'est à vous maintenant.
Bonjour. J'avais une question. J'étais curieux de savoir si la bande dessinée... Enfin, si j'ai bien compris, c'est une bande dessinée, donc le jour de la bataille, comment ça
s'appelle ? Journal d'une bataille.
Journal
d'une bataille, c'est pas une bande dessinée, c'est vraiment des textes et des images en regard, mais c'est pas non plus un roman illustré.
C'est un ouvrage, en tout cas.
L'ouvrage, c'est vraiment des textes et des images, mais c'est pas de la bande dessinée.
Oui, donc je voulais savoir si Journal d'une bataille, est-ce que vous aviez le projet ou est-ce que c'est fait déjà de l'exposer comme la tapisserie de Bayeux, en fait, qui est une salle d'exposition avec toutes ces bandes qui sont finalement dessinées, mais sur 130 mètres.
Oui, complètement. En fait, au même moment, c'est-à-dire que le livre sort, je sais pas, on a essayé de l'organiser, mais le livre sort le 25 avril, c'est un livre. Et en même moment, le 24 avril, il y a une exposition qui dure 2 mois, où là, il y aura 90 dessins qui seront exposés, qui vont former comme ça une espèce de labyrinthe dans lequel on va pouvoir déambuler. A priori, je vais peut-être enregistrer les textes, et ce qui fait que ces textes pourront être entendus, mais peut-être plus murmurés d'ailleurs que vraiment entendus, mais ça, j'en suis pas certain. J'attends d'être sur place, sur le lieu, pour voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est nécessaire, ou est-ce qu'en fait les dessins se suffisent à eux-mêmes et il vaut mieux en rester là dans un univers visuel. Ça, c'est pas encore décidé, mais en tout cas, ouais, ces dessins, ils vont être sous cette forme, c'est-à-dire vraiment montrés tels qu'ils ont été conçus. Ah oui, à l'espace Jacques Villeglet de Saint-Gratien. Venez nombreux.
Merci beaucoup.
Moi, je suis arrivée ici parce que j'ai fait ce qu'on appelle une montée d'exaltation. Alors, c'est-à-dire, c'est pour moi, personnellement, c'est-à-dire que j'ai une grosse, grosse montée de magnétisme. Alors, je vais vous expliquer. Je suis arrivée ici donc un dimanche matin parce que, j'ai eu le pouvoir de voir beaucoup de choses, comme si j'avais été touchée par la grâce de Dieu. Et j'ai une amie qui s'appelle Maria, qui est la réincarnation de Marie-Antoinette, comme on est tous la réincarnation de quelque chose, puisque moi-même je suis la réincarnation de la comtesse de Beauharnais. Mais le problème, c'est que je voyais beaucoup de choses. Hein, Jacques Chirac, avec sa bombe atomique et tout, il fait joujou, mais il ne faut pas oublier que Nostradamus a prédit la fin du monde en 1999, et qu'on va y aller. On va y aller. Donc, ne survivront que ceux qu'on peut appeler la race des seigneurs. Donc la race des seigneurs, c'est des lions. Alors voilà, on va partir vivre en Afrique, dans un continent où il fera merveilleux, style Guadeloupe ou Martinique. Et vous serez là. Je vous dis sincèrement, tu seras là. Voilà. Et ce qui s'est passé après, c'est que je voyais beaucoup de choses. Mes yeux avaient changé de couleur. C'est la quatrième fois que ça m'arrive. Je suis enfermée ici, il ne faut pas l'oublier. Hein. Parce qu'ils essayent de me juguler, parce que je vais beaucoup trop vite, mais il faut que les choses aillent vite. Et puis ben voilà, quoi, et si vous voulez, bon ben j'ai monté, je suis montée, j'irradiais totalement, et ma mère a encore eu peur, elle m'a fait réhospitaliser. Donc voilà, c'est la quatrième fois que je suis ici. Alors j'ose dire pour de médicaments, pour justement que je ne parte pas trop en état de lévitation. Et ma mère, bon, elle a fait ça, si vous voulez, pour me guérir. Bon, c'est vrai que le traitement médical qu'on me donne est un petit peu lourd. Bon, ben, il fallait tout ça pour me faire revenir les pieds sur terre. Mais il est bien évident qu'une fois que je vais être sortie, les médicaments, ils partiront à la poubelle. Voilà. Alors, quoi vous dire? Ben, je peux vous dire que Bernard Tapie est la réincarnation de Jules César. Hein, qu'il était temps qu'il soit boycotté et qu'on le foute à la poubelle. Et je peux vous dire aussi que Le Pen est la réincarnation du général Romain. Voilà. Donc, heureusement que lui aussi a été boycotté parce qu'il serait passé aux élections. Ça aurait fait mal, hein, vraiment très mal. Et ce que je peux dire aussi, c'est que là, prochainement, je vois la France pratiquement dans une guerre civile. Puisque ce matin, au sondage, il était dit que 41% des Français étaient pour le mouvement de grève qui frappe la France actuellement et que les autres étaient contre. Donc les personnes qui sont contre et les personnes qui sont pour vont s'entretuer et ça va faire une guerre civile et je vois Jacques Chirac assassiné. Et Nostradamus revoit un retour à la royauté. Donc le retour à la royauté, ce sera comme une forme de présidence comme il y a actuellement en Angleterre. Et je peux vous dire, ce sera mon meilleur copain qui est le descendant du maréchal de Talleyrand, donc qui sera président de la République. Actuellement, là, je suis en train de vous parler, mais à la télévision, là, il y a l'histoire de ma vie, là, actuellement, sur France 2, la duchesse de Beauharnais ou la comtesse de Beauharnais, je ne sais pas exactement. Voilà. Donc de toute manière, il est bien dit dans les prévisions de Nostradamus que la fin du monde viendra en 1999 par une boule de feu, donc certainement une explosion atomique, mais que je ne sais pas comment ça se passera situé géographiquement. Est-ce que c'est le bon Dieu? Est-ce que c'est le Messie? La sélection sera faite. Voilà. Et si je t'ai rencontré ce matin, bah, tu peux être sûr que toi et tes parents et toute ta famille, vous faites partie de la race des seigneurs et vous ne mourrez pas, vous resterez vivant. Si tu veux, je peux te magnétiser. Voilà, tu te mets comme ça, tu te mets en arrière, tu vides ta tête, tu ne penses plus à rien, et puis je vais te magnétiser. Alors tu vois, le problème avec les médicaments, c'est que j'ai la tremblote, et puis bon, ben, ça m'enlève tout mon magnétisme, mais j'en ai encore qui revient là, c'est pour ça qu'ils m'ont augmenté la dose.